Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour les meilleurs moments de Rotten sans flamme. Rotten sans flamme du lundi au vendredi de 18h à 20h. Et au nom de toute l'équipe de Rotten sans flamme, on vous souhaite une merveilleuse année 2026 avec plein de bonheur, la santé, la réussite professionnelle et une nouvelle Coupe du Monde remportée. C'est ce qu'on espère. RMC est la radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. RMC va vous faire vivre cette compétition en intégralité et Rotten sans flamme plus particulièrement. Donc comptez sur nous. La Coupe du Monde, ce sera sur RMC. Que ça va se passer. On profite de cette journée du 1er janvier pour revivre les meilleurs moments de cette première partie de saison avec dans un instant un débat éternel. Messi, Ronaldo, c'est qui le plus fort? On a fait ce débat le 18 novembre avec Younes Belhanda et Benoît Costil. Vous avez forcément un avis, écoutez les arguments de la Dream Team. À 18h30, le procès de Lille, procès du LOSC et de son complexe d'infériorité face au Paris Saint-Germain. Souvenez-vous de ce match qui avait opposé les deux équipes. Match nul, score final, mais Lille aurait dû l'emporter ce soir-là. Ça avait rendu fou Christophe Dugarry et Eric Dimeco. Et puis une touche un peu moins légère à 18h45 avec des Allo Jérôme spécial 13 novembre. L'équipe de France a donc rejoué un 13 novembre, 10 ans après les attentats qui avaient endeuillé la France. Ça avait fait réagir Jean-Michel Larquet qui était scandalisé à l'époque, et puis Benoît Costil qui lui était présent ce soir-là au Stade de France, nous avait apporté son témoignage. C'est parti pour Rotten sans flamme avec donc ce débat éternel. Messi, Ronaldo, c'est qui le plus fort?
Qui est cette peau forte?
C'est arrivé! Cristiano Ronaldo qui marque un coup franc! Un coup franc direct exceptionnel!
Lionel Messi qui passe par-dessus le mur. Elle est magnifique! Elle est magnifique!
C'est très important, la concurrence. Qui est meilleur?
Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde! Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué!
Non, non, Messi, non!
Non! Messi, mais non!
Entre un qui est une fraude depuis qu'il est arrivé, parce que j'ai honte de parler comme ça de Léo Messi.
Ronaldo, tout ce qu'il touche, ça transforme en or, il réussit tout, il est sympa. Pour lui, c'est un niveau hallucinant. Quoi.
Les deux sont et resteront les faces d'une même pièce qu'aucune décoration ne pourra jamais départager.
RMC, Rotten sans flamme.
Les débats éternels.
C'est donc le dernier épisode de nos débats éternels ce soir et on termine par le meilleur débat possible. Le duel des légendes, Messi-Ronaldo, 13 ballons d'or à eux deux, deux joueurs qui nous émerveillent depuis plus de 20 ans, qui devraient continuer à le faire. Deux personnalités très différentes aussi. Aurélien Tiercey est avec nous, salut Aurél.
Salut Aurélien.
Alors, Messi, Ronaldo, au-delà du talent, ce sont aussi des stats hallucinantes.
On peut commencer par les ballons d'or. 8 fois pour Lionel Messi, 5 pour Ronaldo. Donc, on pourrait s'arrêter là, puisque ça décerne le titre de meilleur joueur du monde. Mais, on est à l'ère des stats. Le nombre de buts, ça, c'est selon la base de données de Transfermarkt, parce que ça peut varier légèrement. 965 buts pour CR7, ce qui ferait de lui le meilleur buteur de l'histoire. Record encore pour le Portugais. 226 sélections, pardon, et 143 buts avec le Portugal. Là, c'est numéro 1 de l'histoire les deux catégories. Alors après, Messi n'est pas loin, 917 buts en carrière. Il a 38 ans, donc 2 ans de moins que Messi, il peut le rattraper. 2 ans de moins que Ronaldo, il peut le rattraper. Et 441 passes décisives. Là, il est loin devant Cristiano Ronaldo.
Il va me rattraper.
Aussi. Après, il y a les stats collectifs. Messi, il a tout gagné. 4 Ligues des Champions, 10 Ligas, 2 fois la Ligue 1 et aussi la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et 2 Copa América. Mais l'Argentine avait déjà gagné avant Lionel Messi. Quand Ronaldo, lui, il a ouvert l'armoire à trophée du Portugal, 2 Ligues des Nations et surtout l'Euro 2016, puisque le Portugal n'avait jamais gagné avant. Et Ronaldo, c'est aussi titre en Espagne, en Angleterre et en Serie A, donc les 3 championnats principaux en Europe. Alors, on va finir par les face-à-face. 36 matchs entre les équipes de Ronaldo et de Messi. 16 victoires pour l'Argentin, 22 buts, 12 passes D, 11 victoires simplement pour Ronaldo, 21 buts, une passe décisive.
Incroyable. Merci Aurélien, c'est le débat éternel. Messi, Ronaldo, qui est le GOAT? 32-16, 06, 12, 424, 424. On accueille un invité avec nous, international français qui a affronté les deux lorsqu'il jouait en Espagne à Valence. Eliakim Mangala est en direct dans Rotten sans flamme. Salut Eliakim.
Salut, bonsoir.
Salut, ça bienvenue. Va merci
Salut, d'être là. Ça va, merci.
Bon, on a regardé les stats et les feuilles de match. C'est pas forcément de mauvais souvenirs, de bons souvenirs pour toi, hein, de l'avoir croisé Messi et Ronaldo.
Pas comme tout le monde, hein. La plupart des joueurs qu'ils ont croisés savent que c'est toujours des joueurs très compliqués.
Bon.
Mais bon.
Tu vas nous en parler dans un instant, justement, l'avis de chacun déjà pour commencer.
Qui est le GOAT, Jérôme ? Messi ou Ronaldo ?
Après, qui est le GOAT ? Alors, si tu parles d'un point de vue juste puriste...
Ah non, tu ne me fais pas une réponse politique.
Non, mais je vais te
prends
dire,
un avis tranché.
Je vais te dire, la vision, et j'en parlais tout à l'heure avec le cas Mbappé par rapport à Zidane et Platini, si d'un purement sportif, moi, ce que représente Léo Messi... le talent, tout, la vista, la vision du jeu, les contrôles, les accélérations, les buts, les passes dés, bien sûr que c'est Léo Messi. Il y a quand même pas, je vais pas dire, il y a pas photo, mais oui, en fait le talent, il est énorme et ça se traduit, comme le disait tout à l'heure,
Alcin.
Non, pas Alcin.
Aurélien.
Aurélien, j'ai oublié son prénom. Comme le disait Aurélien, dans les stats, les titres gagnés. Bah les titres gagnés, Léo Messi, il a tout gagné. Tout gagné. Donc tout. Moi, là-dessus, il y a pas photo. Juste la qualité du footballeur. Après, pour moi, ça ne suffit pas. Parce que là, on parle de statistiques ahurissantes aussi de la part de Cristiano Ronaldo. Lui, c'est le travail, le travail, le travail et le travail. Et il s'est jamais relâché. Jamais.
Jamais. Du talent
jamais,
aussi.
Jamais. Et si tu veux, ça, c'est point de vue personnel. C'est vrai que Léo Messi, moi, les deux ans qu'il a fait au PSG, m'ont marqué, mais négativement. Sur son attitude, sur le fait de chouiner, le fait de marcher, le fait de ceci, de pas se donner à bloc. Ronaldo, partout où il est passé, tu l'as dit, il s'est mis en danger. Il a marqué. Il a été le meilleur buteur de ses équipes. Il a fait gagner ses équipes. Même encore aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est pas un championnat majeur, on est d'accord. Mais il fait gagner ses équipes. Il a soif de ça.
Il marque ses partenaires aussi.
Il encourage ses partenaires. En sélection. Alors, en sélection, Messi fait la même chose, donc je vais pas comparer. Mais avec le Portugal, c'est incroyable. Il a été, on a essayé de le mettre à la porte il y a 4 ans à la Coupe du Monde avec l'ancien sélectionneur. Il a rebondi avec le nouveau. Et là, il est totalement dans le partage, dans le vestiaire, parce que moi, c'est ce que les jeunes Portugais qui sont en sélection avec lui me disent aussi aujourd'hui. Il est très ouvert. Alors, certainement comme Léo Messi, mais moi, je pense qu'en termes de personnalité.
Là, tu dis que c'est Messi le meilleur, quoi.
C'est Messi le meilleur, mais sur l'ensemble de son œuvre, sur l'ensemble, moi, je préfère Ronaldo, parce que la personnalité de Ronaldo.
Ah, tu préfères Ronaldo ?
Non, la personnalité de Ronaldo, j'aime ce qu'il dégage. Bon. J'aime ce côté où il se cache pas, il est pas fourbe. Alors, je dis pas que l'autre, il est tout le temps fourbe, mais il a souvent été comme ça et moi ça
après non mais non Messi n'a jamais revendiqué d'être le GOAT, d'être le meilleur. Il a toujours dit qu'il y avait des meilleurs que lui, ceux du passé, il s'est jamais mis en avant, alors que Ronaldo
c'est pire.
Il se met souvent en avant.
Il se met souvent en avant.
Il parle souvent de lui.
Mais c'est pas la même personnalité,
Messi,
ça c'est
parle de lui.
C'est vrai. Bah oui. Et c'est qui le GOAT Younes si pour toi alors?
Non, pour Ronaldo, moi. Pour moi. Moi j'ai été fan à un moment donné de Ronaldo, mais pour moi Messi c'est du génie. L'autre, il a du talent, mais ça a été beaucoup de travail. L'autre, c'est un génie. C'est inné. Depuis tout petit, c'est comme ça. C'est le génie.
C'est vrai.
Tu vois, il joue des partitions. En fait, toutes les personnes qui le voient, ils disent, lui, c'est un génie. Ronaldo, quand tu le vois, tu dis, c'est plus robotique, tu vois.
Après, nous, c'est vrai que les gauchers, on a quelque chose en plus, quand même.
Ronaldo, quand il débute à Manchester et tout ça, c'est
ce que je voulais en venir, tu vois. En fait, ces dernières années, tu vois, il a joué plus dans l'axe. Où c'est là, c'était les statistiques et tout. Mais à ses débuts, c'est pour ça que j'étais fan, moi, au début. À ses débuts, jouer sur les côtés. Donc, tu vois, il y a Cristiano qui faisait sa spéciale, tu vois, le passement de jambes, il défiait les joueurs, tu vois.
Ouais, mais c'est vrai qu'il était plus dans la créativité au début de sa carrière.
Exactement.
Ouais. Là, en plus à la finition.
Sur la fin, ça m'a.
Bah,
ça
sur
m'a,
la fin, quand même.
C'est un goût amer.
Un goût amer.
En fait, c'est des buts, tu vois. Non, en fait, quand tu vois le début de Ronaldo et la fin de Ronaldo, on dirait que c'est pas le même joueur.
Non, mais c'est vrai.
C'est pas le même joueur.
Ça, c'est vrai.
Mais c'est pas le même joueur.
Il était là à l'Euro 2004.
Depuis ses débuts, c'est du génie. Tous les matchs, c'est du génie. C'est ça passe.
Je me souviens ce qu'il m'avait dit à l'Euro 2004. Il me dit, j'aimerais jouer avec un joueur comme toi,
bien sûr,
faire briller.
On s'en doute. Avant d'entendre Eli Hakim, ton avis, toi, Ben, le meilleur des deux, c'est qui le GOAT ?
Non, mais je rejoins Younes sur les propos de Messi. C'est un génie, il n'y a rien à dire, c'est inné. C'est, voilà. Mais moi, je suis pour Ronaldo. Moi, c'est lui qui m'a marqué de par son travail, de par l'exemple qu'il donne aux jeunes aussi. Ce côté, le travail, quand on voit Mehdi Benassia, quand on peut voir, c'est Blaise Matuidi qui est parlé de lui. Il y a un autre joueur, Adebayor, je crois, au Real, qui parlait de lui.
Oui, c'est Adebayor.
Et je trouve qu'il donne l'exemple dans le vestiaire, il donne l'exemple en dehors. Après, il peut avoir des phrases, des propos un peu déplacés de temps en temps. Quand je vois encore la joie qu'il a quand il marque un but en Arabie Saoudite, je me dis, dit ouais, c'est le mec, c'est un fou, c'est Robocop, il est trop costaud.
Alors Eliakim,
Ronaldo,
c'est un robot.
Toi, tu les as croisés quand tu étais à Valence, ouais. Tu les as affrontés plusieurs fois les deux. Qui est le plus impressionnant quand on est défenseur en face?
Effectivement, Eliakim, attention, hein, c'est lui le plus impressionnant, c'est une bête, Eliakim.
Ah bah oui, déjà, bien sûr. Ah ouais.
Non mais plus sérieusement, déjà en fait ce sont deux joueurs totalement différents. Donc déjà dans la comparaison, t'as un joueur qui est super athlétique, qui est Cristiano Ronaldo. Donc faut être au niveau, c'est un tueur dans les 16 mètres. Et tu sais que quand il te voit jouer contre lui, tous les ballons vont arriver sur lui. Mais même comme ça, je sais pas si vous vous souvenez d'une photo quand ton patte, pas c'est vrai, sur un centre, Ronaldo il a 3 mètres, tu peux rien faire. Quand t'as un joueur comme ça qui s'est préparé physiquement pendant autant d'années, qui est devenu une machine parce qu'il avait la mentalité, il a fait les choses pour, il mérite d'avoir le titre de GOAT. Maintenant, t'as un joueur qui s'appelle Léo Messi, qui est un génie. Depuis qu'il est petit, il a ce jeu. Ça veut pas dire qu'il a pas travaillé, parce qu'attention, il y a beaucoup de joueurs qui ont du talent et qui n'ont pas réussi à faire ce qu'il a fait. Exactement. Donc, faut remettre aussi les hommes du village, qu'on dit que Ronaldo est un bosseur, mais Messi a aussi travaillé ce qu'il a fait pendant autant d'années et faire briller ce qu'il a fait. Il a fait briller tellement de joueurs à Barcelone et briller le joueur qui était autour de lui. Excusez-moi, mais quand on joue contre Messi, on disait, bon, les gars, aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui peut nous aider. C'est la vérité, quoi, Messi.
Ah ouais, tu l'as ressenti, ça. Tu t'es dit, qu'est-ce que tu veux faire?
C'est la vérité, il n'y a que, Dieu qui peut t'aider, tu vois. Après, c'est une question de sensibilité et de choix. Moi, personnellement, comme Younes, il disait, Benoît, moi, j'étais fan de Ronaldo quand il était à Manchester. Il a porté des choses incroyables. Après, son jeu a évolué, mais ça ne veut pas dire que pour autant, il ne mérite pas d'être le GOAT pour. Parce que ça aussi, ça démontre une intelligence pour quelqu'un qui veut arriver au niveau. Ça montre aussi un exemple pour tous les jeunes qui arrivent derrière, que il y a le travail, et si t'as la tête bien entre les épaules, tu peux faire de grandes choses.
Toi, tu les as joués année 2016-2017. Messi injouable, quand t'es face à lui, tu peux rien faire. Comme tu dis, tu pries Dieu et t'attends que ça se passe.
Bah, après toi, par exemple, Messi était injouable, mais c'est là où aussi où Messi, quand j'ai dit, fait briller les autres, c'est que cette année-là, hein, le GOAT c'était Neymar.
Ah, oui. Dans l'équipe, ah oui,
cette année-là, c'était Neymar qui était injouable.
Ah oui.
Et c'est là que tu vois qu'en fait, Messi, je sais pas, par exemple, si Ronaldo aurait pu faire ça, aurait pu laisser un autre joueur briller autant et faire briller.
C'est vrai.
Ouais. Et c'est là où le débat, en fait, qui est le GOAT. Pour moi, en fait, faut juste dire qu'on a eu la chance, pour ceux qui ont eu la chance de cette époque, d'avoir eu deux grands joueurs de très haut niveau.
Ah bah oui.
Sur une très longue durée. Et ça, c'est ce que je retiens.
Bon, faut que tu tranches quand même, Eliakim. C'est qui le GOAT alors pour toi?
Bah, il l'a dit, hein.
Moi, je dirais Ronaldo parce que c'est...
Ah, Ronaldo, mais je suis surpris quand même. Hein.
Et en fait, moi, je suis pas étonnant de ce que tu dis aussi, parce que...
Il y a plein de réactions au 32-16 et sur WhatsApp qui disent l'inverse. On va les recevoir dans un instant.
Non, mais après, dire l'inverse, si tu pars juste de la qualité technique, l'enchaînement, les contrôles, la vision, la vista et tout ça, il n'y a pas photo. Bien sûr que c'est Léo Messi. Mais on a tout joué au football là, mais à n'importe quel niveau. Mais on a tout joué au football. On sait que ce qui est le plus dur, c'est de jamais se tromper sur un contrôle, sur des déplacements, sur l'efficacité devant le but, sur le moment où il faut finir, où il faut la donner. Mais si en fait il se trompait jamais, je te dis pas que Ronaldo se trompe tout le temps, mais Ronaldo c'est différent, c'est un besogneux, un travailleur. Donc un travailleur, c'est quoi?
C'est pour ça que je suis surpris de votre position.
Regarde, juste un exemple qui va définir et qui va montrer beaucoup de différence entre les deux. Les coups de pied arrêtés, les coups francs. Ronaldo, combien de coups francs il a mis au début de sa carrière, surprenant, tu sais, avec sa frappe, qui
le ballon
un petit peu comme Juninho, tu vois, voilà.
Partait très fort.
Par contre, Ronaldo, c'est, on va dire, sur 100 coups francs, c'est 5 marqués. Ok. Mais si, tu as vu quand il touche le ballon, un coup franc, de toute façon, tu sais que même s'il marque pas, le ballon, il est soit le gardien il fait un miracle, soit
c'est du génie.
Mais c'est pour ça. Donc en fait techniquement,
mais comment un mec comme toi et comme Younes qui ont une sensibilité technique, vous dites pas de loin c'est Messi?
Mais pour moi c'est Messi, quand tu parles au niveau football,
c'est ça qui me surprend avec vous.
Mais je suis d'accord avec Younes, il a raison. Mais j'ai le même avis au niveau football, juste football. Mais pour moi le GOAT, ça c'est un ensemble de choses. Messi en fait,
Jérôme.
Allô.
Eliakim,
ouais, ouais, ouais,
Eliakim. Je suis d'accord avec Jérôme à ce niveau-là.
Ben c'est pour ça, tu vois, le GOAT, ça dépasse, si tu veux, juste la réalisation technique et l'aspect du foot. C'est autre chose. Et c'est vrai, c'est autre chose. Pour moi, Ronaldo reprend le dessus. C'est tout, c'est comme ça. Parce que c'est un travailleur, c'est un mec qui a jamais calculé, qui est là, qui veut battre des records, qui veut battre tout. Il donne l'exemple en plus à la nouvelle génération.
C'est vrai
génération.
Qu'il donne l'exemple, c'est vrai. C'est
franchement, vrai. Il s'est mis en danger.
Vous minimisez l'aura de Messi, en fait. C'est ça qui est bizarre dans votre réflexion. Mais bien sûr, tu te rends compte de ce que ça représente pour les Argentins de jouer avec Messi, là, comme il le respecte quand il est en sélection. Di Maria, il osait à peine lui donner le ballon. Enfin, dès qu'il a le ballon, t'es obnubilé comme ça par Messi.
C'est vrai qu'en France, Messi nous a tellement respecté.
Non, mais toi, t'es déçu par son passage au PSG.
Ah, bah écoute, on est en France, déjà, on a une émission en France.
Ronaldo, la Russie.
Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'il a apporté à l'Argentine? C'est un plus grand pays de foot. Il a apporté la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, deux Copa América.
On est ravis.
Non, mais toi, t'as un problème depuis qu'il est passé à Paris.
Messi a besoin d'être dans un confort aussi.
Ouais, Eliakim.
Dans un confort. Et il l'a dit d'ailleurs quand il part du PSG là, il n'y a pas longtemps,
c'est vrai.
Qu'il ne se sentait pas bien parce que c'est la première fois qu'il partait de Barcelone et qu'il a besoin de ce confort, que ce soit dans sa famille et sur le avec qui il joue et qui s'entraîne. S'il n'a pas ça, il a du mal. C'est pour ça qu'à Miami, il se sent bien parce que c'est. L'Espagne, c'est l'Espagne. Donc il se sent bien et il prend du plaisir. S'il n'a pas, c'est compliqué. Alors que Ronaldo, partout il est passé, peu importe les défis qu'il devait surmonter, il les a surmontés.
Il a été fort quand même partout.
Non, mais la force de caractère, les deux, hein, parce que tu gagnes pas autant de choses et tu sur la longévité comme ça, une carrière c'est énorme. Les deux ont une force de caractère incroyable. Parce que Léo Messi aussi au début de sa carrière, il a dû en prendre hein, des réflexions sur sa taille, sur son physique, sur son cela. Après c'est vrai que Ronaldo, lui, il aime. T'as l'impression que Ronaldo, lui, il aime le danger, il aime prendre des risques, il aime. C'est comme ça et il prend toujours le dessus. Et puis je te dis, moi ça dépasse.
Il y a eu des ratés, Ronaldo.
Ça dépasse
le cadre
sportif,
tout ça. Il y a eu des moments assez difficiles.
C'est un homme à grand cœur aussi. Alors, donc moi c'est un ensemble de choses.
Après ça montre la confiance qu'il a en lui.
Alors justement, il y a beaucoup d'appels au 32-16, les gars. Accueillons Thomas, tiens, qui voulait participer au débat. Salut Thomas.
Salut à tous. Comment ça va?
Ça va,
salut, Thomas.
C'est Thomas. Ça va très bien. Merci.
C'est qui le GOAT?
Alors moi, je trouve que le débat il est assez ingrat. Et il est assez ingrat envers Messi, en fait, je trouve, parce que je trouve qu'en fait, on prend. Ok, Ronaldo, j'ai vu toute sa carrière. Moi, j'ai vu depuis que je suis gamin, je regarde Ronaldo jouer. Il a quelques années où il est assez technique. Techniquement, il est assez bon. Il fait un peu plusieurs choses sur le terrain. Mais ça n'a quand même jamais été, à ce moment-là, je me souviens qu'il se faisait quand même critiquer parce qu'il simplifiait pas assez son jeu à Manchester. Et ça n'a jamais été un mec qui fait tout sur le terrain comme le fait Messi. Et en fait, je trouve que c'est ingrat. Parce que du coup, il a les stats et la longévité qui sont comparables, super. Mais à part ça, il y a absolument rien de comparable sur un terrain de foot. En fait, je trouve que c'est vraiment le jour et la nuit. Et je pense que c'est parce que notre génération accorde beaucoup de choses sur les stats. Mais j'ai jamais vu mon père m'expliquer que Gerd Müller était un meilleur joueur de foot que Maradona.
Oh bah, tu peux comparer Gerd Müller avec Ronaldo.
Bah, c'est un chasseur de buts.
Peut-être. Mais ou alors, je vais prendre deux joueurs qui sont très bons techniquement d'un poste et qui ont fait une carrière aussi longue à peu près. Est-ce que vous mettriez Gerrard au-dessus de Zidane? Moi, je pense pas, parce qu'il y en a un. En fait, à un moment, il y a la technique, il y a le génie qui prend le dessus. Il y a le et
je m'étouffe.
Et je trouve que
tous les jours.
Je trouve qu'en fait que mettre Ronaldo au-dessus de Messi, c'est comme mettre Gerrard au-dessus de.
Non, mais en fait, je vais te dire. Et c'est moi, il y a quelque chose que j'ai du mal à entendre. Il est technique, il est plus technique. En fait, c'est quoi un joueur technique? Parce que expliquez-moi ce que c'est un joueur technique. Parce que en fait, ça dépend de la position. Et de ce que tu demandes aux joueurs sur place. Un joueur technique, c'est quoi? C'est non. De faire 100 jambes, pied de gauche, non. Pied droit, faire des passements de jambes, des
tu l'as dit
des,
toi-même, des c'est la justesse monde. Absolue du jeu.
C'est pour ça. Dingue. Donc la technique, ce que je veux dire, c'est que arrêtez de me dire que Ronaldo et bien sûr,
Ronaldo n'est pas différent.
C'est pas la même technique, mais
c'est du génie.
Mais t'imagines,
c'est des trucs que toi tu vois pas, que personne voit.
Mais les frappes, la finition de Ronaldo, si c'est pas un côté technique, ça, c'est quoi en fait?
Regarde,
dernièrement, il a 40 balais, il a fait un ciseau qui est fini sur le poteau. Oui. Je sais pas si vous avez vu ça encore.
Un petit piqué de Messi devant le gardien, c'est extraordinaire. Et Ronaldo, il a pas ça, il a moins ça, quoi.
Moins de finesse, peut-être.
Ouais, bon, après, en MLS, il joue avec des pots.
Eliakim,
c'est facile de faire piquer.
Quand tu affrontes Messi, tu pries pour qu'il fasse un match tranquille et qu'il soit pas trop difficile. Quand tu joues contre Ronaldo, tu te dis quoi? Ça va être physique, ça va être difficile. C'était la même chose un peu. C'était quoi le ressenti?
Non, en fait, le truc, c'est que Ronaldo, en fait, c'est. À cette époque-là, quand je joue contre lui, il est dans son époque où il veut que marquer.
Oui.
Donc il est plus dans les dribbles, tout ça. Donc tout ce qu'il veut, c'est que c'était ou Marcelo, Carvajal centre, il arrive au-dessus de toi, il saute. Donc en fait, à ce moment-là, tout ce qu'il attend, tous ses appels. Il fait énormément d'appels. Il te crie dessus. Hein, tous ces joueurs, si tu fais pas le centre, il te crie dessus. Ouais. En fait, il te montre que c'est moi le boss, c'est moi qui vais faire gagner l'équipe, mais là, moi, tu vois. Et ça aussi, c'est des aspects, en fait, en termes de caractère, certains n'aimeront pas. Mais en fait, si je compare à, par exemple, si on compare au basket, des gens comme Kobe ou Michael Jordan, c'est des gars qui sont au-dessus. Ouais. Ils veulent tout prendre parce qu'ils veulent tout gagner.
Et ouais, mais Eliakim, le truc, c'est que quand tu joues.
Moi, c'est là que je me suis déconnecté de Ronaldo, tu vois. C'est là où.
T'as pas aimé ce côté robotique, toi, Younes?
Mais justement, est-ce que c'est pas volontaire de sa part, Younes? C'est-à-dire qu'il jouait sur un côté avec Manchester, il faisait des skis juste sur un côté. Mais là, en allant à Madrid, il part, il est numéro 9, c'est peut-être dit, moi, faut que je mette des buts pour être.
Ah oui, lui, être là-haut, quoi.
Bon, mais tu sais, les gars, c'est très simple. L'évolution de Ronaldo, c'est l'évolution de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, c'est un robot. Il veut marquer des buts,
Mbappé, on l'a un peu poussé dans l'axe. Hein. Au début, je pense c'est pas qu'il voulait jouer dans l'axe.
Et puis, il y a une autre différence majeure.
Mais sauf
c'est
que maintenant, il veut plus jouer sur le côté.
Ouais. Je suis pas sûr que Mbappé mette autant de buts de la tête que Ronaldo, par exemple. Que ça devienne un vrai neuf comme ça, avec ses qualités-là. Merci à Thomas qui est venu au 32. Le standard est en train d'exploser. Là, c'est fou. Il y a des lumières rouges partout au standard. Tout le monde a envie de participer au débat. Eliakim Mangala nous fait le plaisir de rester avec nous. Johan avec nous au 32-16. Bah, Johan est supporter du Real Madrid.
Salut Yo-Yo.
Bonjour tout le monde.
Ça va ?
Salut, sois le bienvenu.
Salut. Bon.
Comment allez-vous ?
Bon, t'habites pas loin du stade Santiago Bernabéu, j'imagine ?
Non, je suis dans le Médoc, moi.
Ah, d'accord.
Les fans du Real. Les fans du Real.
Un espagnol. Ouais, ouais. D'accord.
Bon. C'est qui le GOAT, alors ?
Un footiste, quoi.
Alors, moi, j'ai appelé plusieurs fois. Je suis pro-Ronaldo. Donc, je vais défendre Ronaldo. Alors je vais vous poser 2-3 questions, il faudra me répondre honnêtement. Quand vous dites voilà, 1 à 8 ballons d'or, l'autre à 5, voilà. En étant honnête, est-ce que Messi mérite ses 8 ballons d'or?
Non. Juste en... Non.
Voilà. Non. Donc déjà sur 8, il y en a 4 qui sont pas à lui.
Bon, 4.
Bon, 4, tu vas un peu loin quand même.
Moi j'aurais
17, mais bon.
Non, mais l'année où l'Espagne gagne tout, je pense qu'Iniesta ou Xavi le méritaient plus que Messi.
C'est vrai.
L'année où Lewandowski doit le gagner, eh bien, il le donne à Messi.
Ah, quand il arrive au PSG, ouais, c'est vrai.
L'année où Haaland doit le gagner, eh bien, il le donne à Messi. Parce que, soi-disant, il y en a des 2 Coupes du Monde, c'est celui qui gagne la Coupe du Monde qui doit gagner le Ballon d'Or.
Allez, on va dire qu'il y en a peut-être 2 où il y a des discussions.
Il y en a 2.
Avec 2 en moins, il reste devant Ronaldo.
Après, Ronaldo, il a volé celui de Ribéry.
Ah, il a volé celui de Ribéry, tout à fait, on est d'accord.
Voilà, c'est pour ça. Après, moi, ce que je trouve dommage, c'est que les deux ne sont pas arbitrés. Ils sont pas jugés par tout le monde de la même façon. Moi, après, c'est mon avis, voilà, quand je dis, peut-être que...
Par rapport à quoi?
Eh bien, par rapport à tout, c'est pareil, la Coupe du Monde, six pénaltys pour l'Argentine, après, voilà, c'est mon regard pro-Ronaldo, peut-être qu'il dit ça, je suis peut-être pas objectif. Mais j'ai l'impression que dès le début, on a dit qu'il fallait un gentil et un méchant. Pour moi, je compare Ronaldo à Mark Landers et Messi, c'est Olivier Hatton.
Tu vois qu'on a fait un storytelling comme ça ouais.
Non, mais vrai que Messi, c'est le talent. Messi, il peut ne pas s'entraîner. Et voilà, Messi, c'est inné. Que Ronaldo, non, mais
je t'assure qu'il s'entraîne, Messi. Je t'assure qu'il s'entraîne, Messi. Il n'est pas là parce qu'il y en a eu des talents comme lui. Il y en a des talents. Mais s'il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de sérieux.
Après, c'est le professionnel.
Hein. Il y avait lui et Ben Arfa.
Exactement.
Pour moi, Ben Arfa, c'est un monstre. Mais bon, après, ça, c'est. Les deux, ils ne sont pas arbitrés pareil pour moi. Après, c'est mon avis. Quand je vois la Coupe du Monde, Messi qui tire dans le banc des remplaçants des Pays-Bas, ils ne prennent même pas un jaune. Ronaldo, il fait un truc. C'est... Tout ce que Ronaldo fait, ça fait parler. Tout ce qu'il fait. Il peut faire un truc bien. Après, à Manchester, on se rappelle, il y en a beaucoup qui ont oublié que Ronaldo, à Manchester, il jouait contre des défenses qui lui cassaient les jambes.
Oui.
Ils étaient là pour le tuer.
C'est vrai.
Et c'était un tueur. Sauf qu'à Manchester, on a dit, il est personnel. Sauf qu'il était personnel, mais il nous faisait rêver. Il a fait des gestes qu'on n'avait jamais vus.
Mais ça, c'est un vrai argument
sur le côté,
qui a été retenu pour Ronaldo.
Oui, c'est après,
un truc
réussi en Italie, Angleterre et en
Espagne. Ouais, c'est ça.
Yo-Yo.
Non, après, il est arrivé à Madrid.
Yo-Yo, tu serais pas la résurrection de Maïté? T'as la même voix que Maïté.
Non, mais
franchement, c'est fou. C'est sûr, j'ai envie de relancer les mousquetaires, la cuisine des mousquetaires.
Tu veux que je te fasse une recette?
Dis-moi la réflexion, un petit peu de ciboulette. Vas-y.
Non, déjà qu'on se moque de ma voix, déjà, je vais pas le faire. Après, tous ceux qui m'entendent, ils vont se moquer de moi direct.
Mais non, pas du tout. Tu peux nous la faire avec un petit peu de ciboulette.
Allez, offre-nous ce moment.
avec un petit peu de ciboulette.
C'est exactement ça.
C'est grave.
Et nous, à RMC, vu qu'on relance des émissions qui marchaient plus, voilà, on les relance, on va peut-être la relancer avec toi. Merci, Yo-Yo. Bon, merci.
Je peux juste dire un dernier truc. Et après, on dit que Ronaldo, il fait pas beaucoup de passes décisives. Juste regardez la compilation des cadeaux faits à Benzema à 2 mètres de la cage ou à plein d'autres qui n'ont pas marqué. Donc, il y a plein de trucs. Ronaldo, il marque des buts, mais en même temps, c'est le métier d'un attaquant. Quand il marque pas des buts, on gueule parce qu'il marque pas. Et quand il est pointé devant à pousser les ballons dans les filets, qu'il fait son boulot, et bien on dit, ouais, il est planté devant, il fait son boulot. Et en attendant, c'est un renard, il est là, il est au moment où il faut.
Bon, ok, Yo-Yo. Bah,
merci,
écoute,
ouais,
de toute façon, merci en tout cas. Et à bientôt.
Allez, merci, bonne soirée.
Merci, salut.
À bientôt. À bientôt. Profitons-en bientôt. Pour.
C'est dingue, Maïté.
Incroyable, c'est vrai. Mais
vous avez pas.
Il a joué
il y a
le jeu.
Que moi ou.
Même si, il a joué le jeu. Écoute, bravo à Johan.
Ah, c'est quand tu l'as dit. Après, c'était.
Ouais, ça devenait limpide
c'est
après.
C'est après, j'ai bugué. Ah ouais, et puis, je vais sortir le carton jaune. Je me dis, c'est pas bien et tout ça. Tu te moques d'un.
C'est vrai.
Après, c'est vrai quand tu dis.
Ah, si, mais on a une pensée pour Maïté.
Et tout à fait. On l'embrasse. Voilà. Eliakim, donne-nous tes nouvelles. Parce que là, pour l'instant, tu es sans club, mais ta carrière n'est pas terminée.
Dans l'optique, j'aimerais bien trouver un projet en janvier, cet hiver.
Ouais.
Puis j'aimerais pouvoir jouer encore deux ans et après passer à autre chose tranquillement.
T'as quel âge, toi, Eliakim, là, en ce moment?
Je vais avoir 35 ans en février.
Ah oui, donc tu peux encore jouer.
Donc
91.
Ouais.
Il y a des contacts un peu ou tu cherches activement?
Je cherche activement. Là, on est mi-novembre, là, décembre va arriver, donc ça va commencer à s'activer. Bon, on va voir.
C'était au Portugal que tu étais lié à l'année dernière, ça?
Au Portugal.
À Estoril, ouais.
Portugal.
Tout à fait. Tu veux que Younes sonde le marché de Dubaï?
Moi, je suis au Qatar, hein.
À Qatar et à Dubaï?
Ah, il est au Qatar.
Ah, il est au Qatar.
Il
est bien.
Il a bien choisi.
Il est pas loin de la place. Il est pas loin de la place Vendôme à Doha, là.
C'est vrai en plus.
Ah, tu vois. Je connais bien le quartier. Hein.
Non, mais
tu connais.
Le message est passé en tout cas. Yakim, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Salut, Yakim.
Bon courage.
On a un dernier auditeur qui veut participer. C'est Roméo qui est avec nous au 32-16.
C'est qui, Roméo?
Il est là, Roméo.
Roméo.
Salut, Roméo. Est-ce que t'es là?
Vous m'entendez bien?
Ouais, Roméo, ça va?
Super. Ouais. Ah, grand plaisir. Ça fait toujours plaisir.
Écoute, c'est un plaisir de t'accueillir dans l'émission. Bon, allez, vas-y, donne-nous un avis tranché. Ronaldo, alors, Messi, c'est qui le GOAT?
En toute franchise, c'est la machine de guerre de Ronaldo qui a révolutionné pour moi le football des temps modernes. Moi, je vais juste intervenir sur l'angle Portugal, c'est-à-dire qu'il a mis vraiment le Portugal sur. Allez, c'est exagéré, mais sur le toit de l'Europe, le toit du monde, puisqu'il, depuis ses pleurs en finale contre la Grèce à l'Euro 2004, il a vraiment su insuffler quelque chose avec l'équipe portugaise et le Portugal. Et en fait, il a mis ce pays sur le toit du monde. C'est-à-dire qu'avant, personne n'entendait parler de ce petit pays à qui on pouvait comparer un peu comme l'Espagne. Vous savez, l'Espagne-Portugal, ça a toujours été de belles équipes dans les années 70, 80, 90, mais qui parvenaient jamais à gagner quelque chose. Et Ronaldo, demi-finale 2006, Coupe du Monde, il remporte l'Euro 2016 contre la France. En termes de merchandising,
l'Euro 2016 est
entraîneur-joueur. Quand il gagne, il n'est pas sur le terrain.
Messieurs, si Ronaldo ne se blesse pas et qu'il n'est pas sur le bord du terrain, vous croyez vraiment? Enfin, pour moi, le fait, c'est... qu'il ait été blessé lors de la finale, c'est en partie grâce à lui.
Honnêtement, j'étais sur le banc tout ce jour-là. J'étais sur le banc, je le voyais. C'était un truc de fou.
Ah oui, tu étais, Benoît, c'est vrai.
Vous avez fait péter le plomb.
Monsieur, argument phare, quand Ronaldo n'est pas sur le terrain et il est pas là ou sur le banc, l'équipe est encore plus motivée. Donc, pour moi, il est vraiment... Enfin, c'est une machine de guerre.
Ah oui, non, mais ça, c'est vrai.
Je préfère l'avoir quand il est dans mon équipe, je préfère l'avoir sur le terrain que sur le banc de touche, quand même, sur la durée. Voilà.
Bon. Merci, Roméo, d'être venu au fond de la
série. Merci.
Mais bon, allez, bye bye. À bientôt.
Allez, à bientôt.
Incroyable. Allez, moi, je pensais que ce serait tout le monde promet, mais il y a beaucoup de fans de foot qui disent que c'est Ronaldo.
Sur le GOAT, on est d'accord que on dit que c'est Ronaldo.
Ouais, exactement.
C'est dingue.
Ouais, grand débat. Et c'est la fin des débats éternels. On s'est régalé toute cette semaine grâce à vous au 32-16, au 06 12 424 424.
On s'est régalé.
C'était pas mal.
C'était
pas mal. Et dans un instant, on va conclure cette belle émission avec le quiz de Rotten sans flamme. Tous contre Rotten.
On va en avoir d'autres encore parce que l'année n'est pas finie.
T'as peur de Younes et Benoît ou pas?
J'ai gagné la semaine dernière.
Ah, Younes a gagné.
J'ai peur d'une chose, c'est que la nouvelle génération, elle triche beaucoup.
Ah non. Ah, c'est vrai que sur Internet, ça va vite.
Et regarde, déjà, Younes,
le retour, j'ai triché pour se mettre. Ouais. Hey. En Kings League, c'est de la triche.
En Kings League, non, mais par contre, à PlayStation, ouais, tu pouvais pas tricher à l'époque. Ouais, et
tu rigoles.
Comment tu veux que je triche?
Attends, Roberto Larcos, tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Je faisais jouer l'arrière gauche, je faisais jouer attaquant, Roberto Larcos.
Younes, j'étais obligé d'aller le coucher le dimanche soir parce que sinon, il y avait l'école le lendemain, il se faisait engueuler.
J'allais pas à l'école, c'est trop fort.
Débat éternel à retrouver sur la chaîne podcast de Rotten sans flamme, sur les plateformes de téléchargement et sur les applis d'RMC. Un instant, le procès de Rotten sans flamme, le procès du LOSC et de son complexe d'infériorité face au Paris Saint-Germain. A tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Moment particulier, dans un quart d'heure à 18h45, un hommage de Rotten sans flamme autour du 13 novembre. Les Bleus ont rejoué un 13 novembre cette année, 10 ans après les terribles attentats qui ont frappé la France et Paris plus particulièrement. Cela avait scandalisé Jean-Michel Larquet, vous entendrez son émotion. Mais on démarre par le procès ce soir du LOSC et de son complexe d'infériorité face au Paris Saint-Germain, écoutez.
RMC, Rotten sans flamme.
Quand il vous manque autant de choses individuellement et collectivement, vous pouvez prétendre à rien. Je pense qu'aujourd'hui, on a touché le fond en termes de contenu.
Le procès de Rotten sans flamme.
Priorité à la santé des joueurs, c'était le message de Luis Enrique pour justifier le gros turnover hier soir contre Lille. Le nul, un but partout. L'exception, c'était Pacho. C'était le seul rescapé de la finale de Ligue des Champions qui a démarré le match hier. On rappelle qu'il y a eu un milieu de terrain Lee, Mayulu, Njantou, le jeune issu du centre de formation. En face, Lille avait une bonne équipe, un 11 compétitif. Mais Lille a été inoffensive, 3 tirs cadrés, 38% de possession de balles. Alors ce soir, ouvrons le procès du LOSC et de ce fameux complexe d'infériorité face au PSG. On a deux procureurs ce soir. Éric Dimeco, bonsoir.
Bonsoir.
Et Christophe Dugarry, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat du LOSC, c'est maître Jérôme Rotten. Bonsoir.
Bonsoir. Bah, tu vas voir l'avocat.
Ah bah si.
Oui, mais.
À quoi?
Oui, mais je vais pas aller sur la même chose que eux pour attaquer le LOSC, mais je vais les attaquer différemment.
Ah, c'est une drôle de défense.
Qu'est-ce qu'il raconte de Chaparès? Non,
ouais, bah,
ça
moi,
sera non, plus clair. Qu'est-ce qu'on doit? Benoît, qu'est-ce qu'on doit faire?
Vas-y, commence. Vas-y. Parce qu'on a hâte de découvrir ça. S'il te plaît. Dis-nous la vérité.
Allez-y.
Attends, mais j'ai très peur pour 19h, du coup.
Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je vais pas défendre Lille sur des. Bon, vas-y.
Bon. Et Geoffrey nous rejoint. Ce sera le juge au 32-16. Salut, Geoffrey.
Salut à tous. Salut tout le monde.
Salut, Geoffrey.
Allons-y du coup sur ce procès. Qui prend la parole déjà? Vous voulez y aller, monsieur l'avocat?
Vas-y, Eric.
J'ai écouté Eric, il était très bon tout à l'heure.
Attends.
On doit dire quoi du coup, nous? Non, je déconne. Donc, sur le match, on a fait le débat, puisque Dugas en a parlé, on a fait le débat dans la Moscato Show, puisque Pierrot Dorian était particulièrement agacé par la prestation et la composition d'équipe du PSG, qui a donné ce match-là. Et moi, je mettais plutôt la faute sur les Lillois, parce que je pense que justement, en voyant la composition de l'équipe parisienne, il y avait moyen de faire un très bon résultat que les Lillois n'ont plus fait depuis un long moment aussi, d'après ce que je vois, parce que je crois qu'ils ces dernières années, ils ont souvent pris la marée, donc ça explique peut-être psychologiquement ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, le reproche qu'on peut faire aux Lillois, c'est de pas avoir profité de la situation, c'est-à-dire un pari qui est amoindri, qui est lancé sur plusieurs tableaux, qui joue tous les trois jours, avec un Luis Enrique qui est obligé d'inventer pour peut-être reposer certains joueurs, pour donner du temps de jeu à d'autres, et donc j'ai trouvé des Lillois timides, et contrairement, puisque tout à l'heure j'ai fait allusion à ce qu'avaient fait les Marseillais contre un PSG qui avait un peu moins de force offensive, où on a vu une équipe qui a pris sa chance, qui a pendant la première mi-temps mis le pied, qui a fait du jeu, qui a mis du rythme, qui a mis de l'impact, fait tout ce qu'il faut pour gêner des Parisiens un peu amoindris. Et les Lillois hier soir, ils l'ont pas fait. Alors est-ce qu'ils sont soumis? Est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce que c'est psychologique? Parce qu'on nous a parlé de ce qui s'est passé ces dernières années, notamment l'an dernier, voire l'année d'avant, qui peut aussi te brider. En tout cas, moi je comprends d'ailleurs, puisque j'ai entendu le petit André à la fin du match avoir pas mal de regrets sur la prestation, voire le résultat. Ben oui, s'ils ont pas fait ce qu'il fallait pour faire ce qui bon ça aurait pas été un exploit mais en tout cas pour faire un bon résultat voilà donc je moi je pense que sur ce match-là et d'ailleurs ils l'ont reconnu les Lillois ils ont pas fait ce qu'il fallait et ils peuvent être déçus voire peut-être même attaqués par leurs supporters qui sont déçus aussi.
Duga il t'a agacé ce match hein.
Oui, il est agaçant parce qu'il est pas plaisant déjà. Il est pas plaisant ce match. Ça reste une affiche PSG, Marseille. Ça doit être des matchs différents des autres. Et là, j'ai pas l'impression que les Lillois ils ont joué un match différent des autres. Voilà. Alors, il y a des circonstances atténuantes que vont certainement révéler leur excellent avocat. Mais là, le minimum, c'est cette agressivité. C'est quand tu vois la compo d'équipe d'avant match, que tu vois tous ces jeunes là et des joueurs qui sont entre guillemets des joueurs bis ou pas forcément autant en confiance que les titulaires. Je pense à Kang In-Lee ou à Ramos, mais de l'impact. Ne leur laisse pas autant de temps pour prendre confiance et pour jouer. Surtout la jeune garde, surtout les titis parisiens. C'est le football, c'est ça. C'est-à-dire le football, il faut laisser le moins de temps possible à l'adversaire pour s'exprimer. Surtout quand t'as un adversaire en face de toi qui est en pleine confiance, qui a une qualité technique largement au-dessus de la moyenne, ce qui est le Paris Saint-Germain actuel. Bon, mais là, quand tu vois que t'as des jeunes qui sont peut-être un peu moins confiants, va les presser, va les secouer, va aller un peu les chicoter, tente quelque chose. Quand je crois qu'il y a, avec la frappe du but, je crois qu'ils ont fait trois frappes cadrées, les Lillois. Ouais. T'as un stade plein, archi plein. Tu dois sortir quelque chose d'autre, peu importe le résultat. Alors, on va me dire, oui, mais ils ont bien fait d'être timides puisqu'ils arrivent à décrocher un nul, ce qui est déjà un exploit en soi. Si tu veux, mais je pense que, en plus, Bruno Genesio, que je défends souvent et que j'ai souvent défendu depuis toutes ces années, je pense que même lui, il n'a pas été très inspiré, même s'il a été un petit peu plus inspiré dans ses choix de fin de match qui lui ont permis de revenir comme il est depuis le début de la saison, avec souvent des choix du banc qui rentre et qui font gagner son équipe. Je trouve qu'il a pas certainement été pas très très bien inspiré lui aussi, que ce soit dans sa compo d'équipe ou que ce soit dans sa volonté d'animer le jeu et de ce qu'il fallait faire ou les consignes de match pour perturber cette équipe. Après, je comprends que cette équipe elle terrorise l'Europe entière, même avec ses remplaçants. On l'a vu à Barcelone, donc je comprends cette crainte. Mais quand t'es joueur de foot, ce genre de match là à 21h le dimanche soir, tu dois faire autre chose.
La réponse de Maître Roten.
Bah, non, mais en fait, moi, là où c'est très clair, c'est que je suis totalement en désaccord avec le fait que c'est juste dans la tête et c'est ce complexe d'infériorité qui a fait que les Lillois n'ont pas été à la hauteur hier. Dire, c'est dans l'analyse, c'est l'analyse zéro d'un match de football, en fait. T'sais, si tu insistes juste sur le côté psychologique en disant, ouais, il y a un complexe d'infériorité parce que c'est le Paris Saint-Germain, j'imagine pas une seule seconde que l'équipe qui a joué hier de Lille, qui est mis en place avec autant d'expérience que les mecs se soient fait dessus parce que c'était le PSG, il faut les respecter.
Bon, on n'a pas vu l'envie, hein, hier soir.
Non, mais peu importe. Mais c'est un problème de niveau. C'est un problème de niveau et peut-être de récupération. Parce que pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont joué jeudi et je suis le premier à dire oui, mais tu dois récupérer.
7 joueurs, j'ai regardé, il y avait 7 joueurs qui ont joué à Rome et qui ont rejoué.
7 joueurs, du gars. Et en plus de ça, c'est pas 7 joueurs qui ont 20 ans ou 25 ans. C'est des plus de 30 ans. Meunier, Mandy, André, Ben Taleb.
Non, André, il était pas à
Rome. Ouais, André, il est rentré en cours de match.
Il était mais Ben Taleb, il y avait et Giroud.
Il y avait André, il y avait Ben Taleb, il y avait Meunier, il y avait Giroud, Mandy derrière. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces joueurs-là, en effet, à l'âge qu'ils ont, peut-être qu'ils ont du mal, en fait, physiquement à se remettre dedans. Mais c'est juste après. Je vous le dis, un problème de niveau. Pourquoi je dis niveau? Parce qu'en effet, le PSG est surprenant d'avoir autant de maîtrise avec un effectif très jeune et avoir un milieu de terrain complètement décimé. Et aujourd'hui, t'as l'impression que rien que parce que Luis Enrique est sur le banc, les mecs, ils savent, ils sont en confiance, et hop, ils prennent le ballon, ils font courir les autres. C'est juste que Lille, en effet, a été inférieur tactiquement, techniquement.
Il n'y a pas d'histoire mentale.
Mais je crois pas une seule fois que les Lillois, quel que soit, ils soient pas excités par le contexte. Le stade, il est fantastique. Il y avait une belle ambiance et que t'as envie de te taper le PSG, même un PSG qui est amoindri. Non mais les gars, dis-moi s'il y a un joueur qui a pas envie de faire encore plus d'efforts que d'habitude. Moi, je pense qu'ils étaient dans cette optique-là, mais ils ont pas pu.
Bon.
Après, voilà, est-ce que c'est un niveau, un problème technique, un problème tactique, un problème physique ? Je pense que les trois sont mêlés parce que Genesio, je sais pas si toi, Duga ou Eric a dit ça, mais Genesio, en effet. Genesio sur ce match-là, il est pas bien inspiré. Ouais. Et je pense qu'il a pas trouvé les solutions.
Les Lillois seront ravis, ils ont été bien défendus. Le verdict de Geoffrey, du coup, au 32-16.
Bah écoutez, tous les trois sont très pertinents. Hein. J'ai bien aimé Eric Dimeco tout à l'heure dans le Moscato Show, mais je donnerai un léger avantage à Eric Dimeco quand il y a à Christophe Dugarry, pardon, quand il y a une équipe jeune comme ça. Je pense qu'ils auraient dû leur rentrer dedans, les chicoter, jouer leur va-tout, et puis c'est tout le manque d'expérience. Je pense que Lille a joué petit bras et on a été très
déçus. Pour toi, c'est une histoire mentale, alors, si tu donnes la victoire à Duga et Eric.
Bien évidemment, quand tu joues le champion d'Europe, une équipe du PSG qui vient de taper le Barça, tu dois être survolté. Et à aucun moment, on a vu une équipe qui a voulu mettre de la grinta, mettre de l'intensité, de l'impact. On a manqué de tout. Moi, je suis supporter du PSG, mais je suis endormi, hein, sincèrement.
Okay.
J'ai trouvé Lille hyper décevant. Quand tu as une équipe comme ça, c'est ta chance. T'as rien à perdre contre le PSG, tu peux faire qu'un exploit. Et ils ont joué petit bras.
Okay.
Bravo à Genesio, je pense qu'il voulait jouer un point. Ben, il a fait un changement avec Ethan Mbappé, il rentre, il marque. C'est le coup parfait, mais on reste.
L'histoire est belle, hein.
Ouais, allez. L'histoire est belle. Ouais,
merci Geoffrey. Et c'est donc Duga.
Et Eric, encore une victoire.
Qui remporte ce procès. Aïe, 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 ça fait peur.
Tu te rends compte ce qu'il a dit, l'histoire est belle.
Le Mbappé qui marque, l'histoire est belle.
Quelle histoire ?
Bah si, l'histoire est belle.
Ah oui, c'est vrai qu'il a marqué, il a tellement marqué l'histoire du PSG, Ethan Mbappé, qu'il a marqué, il n'a pas voulu célébrer. Tu sais, respect.
Non,
mais
ça aussi.
Mais c'est incroyable.
Mais non, mais il y a la famille dans la tribune.
Alors, t'as Kylian Mbappé.
Moi j'ai trouvé que l'histoire était belle.
Moi aussi j'adore.
Lui il est sur le terrain, mais il dit oh non, je célèbre pas parce que c'est mon ancien club. Mais c'est une connerie.
C'est ce qu'on aime dans le foot.
Mais c'est le mec, il a 19 ans, il a rien fait. À Paris, il a fait deux matchs, mais il a tellement de respect pour le PSG qu'il l'a mis dehors. Tu vois que oh bah il célèbre pas
mais
son but contre Paris.
Son frère,
je trouve que l'histoire est belle. L'histoire est belle.
L'histoire est magnifique. Célèbre-le, fais trois fois tour de terrain. De toute façon, tu vas pas mettre 40 buts.
Bravo Ethan. Et dans un instant, le Allo Jérôme, comme tous les jours à 18h45, une spéciale 13 novembre. Jean-Michel Larquet scandalisé par le fait que les Bleus aient pu jouer sur cette date. À tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Encore une fois, une merveilleuse année 2026 pour vous. À partir de 19h, un grand débat qui a marqué cette première partie de saison. Mbappé à Dubaï en plein rassemblement de l'équipe de France. Est-ce que vous trouviez ça choquant ? Jean-Michel Larquet était là, Jean-Pierre Papin également. Et puis tout de suite, un Allo Jérôme spécial 13 novembre.
RMC, Rotten sans flamme.
On veut faire comprendre aux Français que malgré le fait qu'il y a une qualification à la Coupe du Monde qui se joue, il y a des choses bien plus importantes. Et la commémoration de cette journée, qui est malheureusement historique, en fait partie. Et on n'est pas déconnecté de ça. Donc on voulait avoir une pensée pour tous les Français et Françaises.
Allo Jérôme.
Voilà l'initiative aujourd'hui de Kylian Mbappé en préambule de la conférence de presse. Demain, l'équipe de France reçoit l'Ukraine 10 ans jour pour jour après les attentats du 13 novembre 2015. Attaque terroriste coordonnée ce soir-là qui avait fait 132 victimes. Les arguments de l'UEFA, justement, parce qu'on a sollicité l'UEFA pour avoir des réponses, pourquoi les Bleus jouent le 13 novembre. Premier argument, impossible de déplacer la rencontre par souci d'équité, car les matchs du même groupe doivent se jouer en simultané. Autre argument, aucune initiative de la part de la Fédération Française de Football, aucune demande officielle
pour
bousculer le calendrier et modifier la date de cette rencontre. Précisons également que c'est la deuxième fois que les Bleus jouent un 13 novembre depuis les attentats. C'était le cas en 2021, une victoire 8-0 au Parc des Princes face au Kazakhstan. Le grand Jean-Michel Larquet est là. Salut capitaine.
Bonsoir messieurs, je dis messieurs parce que la parité n'est pas respectée chez Rotten sans flamme. Il me semble que ça manque de dames, me semble-t-il.
Mais c'est, enfin, pas
c'est pas grave.
Si t'en as sous la main, tu nous le dis. Hein.
Alors capitaine, je t'ai contacté ce matin.
Bonsoir à tous.
Et je m'en doutais, c'est un sujet qui te tient à cœur et tu ne comprends pas qu'on puisse jouer un 13 novembre. Hein.
Non mais au risque de vous décevoir, je ne suis pas en colère, mais je suis très triste. Très triste parce que ça fait 10 ans, donc c'est une date quand même exceptionnelle. Et puis, bon, il ne s'agit pas de se substituer à la justice, elle a fait son travail, nous respectons les décisions, il n'y a pas de problème. Il s'agit tout simplement de se souvenir, et je suis un petit peu en colère parce qu'effectivement, bon, le sport en général, et le football en particulier, qui est le premier sport au monde, c'est un formidable outil pour réconcilier les gens, pour les rassembler. Et de réserver le 13 novembre 2025, 10 ans après les drames du Bataclan, on avait une superbe occasion de montrer la force du football. Mais vous l'avez dit, alors c'est pas l'UEFA. Hein. L'UEFA, si on lui dit, ou si le gouvernement français, puisque la Fédération française de football n'a qu'une délégation, si le gouvernement français lui dit, on peut, ça vous ennuie pas qu'on joue plutôt le 12 que le 13,
ouais, ou
l'UEFA
14.
Acceptera. Mmh. Voilà, simplement, c'est que la Fédération française de football, ça lui est passé au-dessus de la tête.
Eh oui.
Ils n'ont rien fait parce qu'il n'y a personne à la Fédération française de football qui a imaginé que on pouvait consacrer 10 ans après cette journée au souvenir, au recueillement et s'occuper de ceux qui souffrent encore dans leur chair, dans leur cœur, de ce qui s'est passé cette soirée-là. Puis moi, quand je vous parle de ça, les gars, c'est que moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu modestement. Je peux en parler puisque les stages larqués, c'est fini. Voilà, c'est terminé. Donc, j'ai tourné la page. Mais j'ai été, moi, avec des gens de confession différentes. Et je dois rendre hommage à mes deux derniers directeurs qui étaient Driss et Mohamed, qui n'ont pas la même éducation que moi et qui ont été des collaborateurs. Mais exceptionnels. Et voyez, aujourd'hui, j'ai reçu une lettre. D'un de mes éducateurs qui s'appelle Idriss. Vous voyez qu'il est. Il me dit, le football, moi, dans les stages larqués, j'ai été confronté à des jeunes de différentes nationalités, d'origine et de milieux sociaux différents. Et là, j'ai vu le football sans frontières. Mais la fédération avait une formidable occasion de faire quelque chose.
Eh oui.
Aujourd'hui, on est mercredi après-midi. Que je sache! Les écoliers, les collégiens, les lycéens, ils ne travaillent pas.
Normalement, non.
Vous ne pouvez pas mettre en place une manifestation où tous les jeunes se rassemblent sur tous les terrains de France et de Navarre et faire quelque chose. Et ça ne coûte rien. Ça coûte moins cher que les salaires de certains présidents de district ou présidents de ligue qui ont mis les mains dans le pot de confiture. Voilà, ça ne coûte rien. Ils ne sont pas. Alors, je dis pas que c'est de l'incompétence, parce que si je disais que c'est de l'incompétence, messieurs, ce serait leur reconnaître qu'ils ont un peu de compétence. Mmh. Ils n'en ont pas du tout. Ils n'en ont pas du tout. C'est de l'inaction totale. Mmh. Mais que fait la commission du football d'animation? Alors, que fait la commission du football des jeunes?
Comment, Jean-Michel, tu peux expliquer?
Et terminer cette journée de rassemblement, de convivialité, par le match ce soir, France-Ukraine. Mais qui y a pensé? Alors je vous le dis, personne. Et
on a
personne.
Bien un président de la Fédé quand même, non?
Mais non, mais je
non, mais parce que Monsieur Diallo, moi je veux bien, mais moi je le lui en veux par rapport à tout ce qui est.
Je ne le personnalise pas.
Non, mais moi je
personne.
Non, mais excuse-moi.
Personne n'y a pensé.
Non, mais, venez votre avis d'ailleurs, Jérôme, Dugas et Steve.
Je vais pas le personnaliser, mais quand tu es président de la Fédé, c'est que tu prends toute la lumière d'un président. Donc tu es forcément responsable, même si c'est pas forcément toi qui va passer les coups de téléphone, essayer d'organiser tout ce que tu viens de dire, Jean-Michel, parce que je suis entièrement d'accord et 100% d'accord avec tout ce que tu viens d'évoquer. Mais moi, ce qui me fout la rage plus qu'autre chose, c'est qu'en effet, la Fédération française n'a même pas essayé de contacter l'UEFA pour essayer de trouver une solution.
La colère est mauvaise conseillère. Il ne faut pas être en colère, il faut être triste. Mais vous voyez, je discute souvent avec, puisque j'étais présent en Corse et que désormais au mois de mai, depuis le mai 92, il n'y a pas de match.
Ouais, moi j'y étais et ils ont lutté pour avoir ça.
Il ne s'agit pas de chercher des coupables, ceci, cela. Il faut passer à autre chose. Mais 30 ans après ou 33 ans après maintenant, s'occuper de ceux qui souffrent, s'occuper des victimes, c'est quelque chose de fabuleux. Et je trouve que la Fédération française de football aurait eu bonne conscience de s'occuper. Mais je le dis parce que il y a dans ce drame-là, il y a deux jeunes que je connaissais qui étaient deux cousins germains qui sont restés au Bataclan. Donc, je connais la douleur de ces gens-là. Bon, on va pas arrêter de vivre. mais on peut arrêter quelques heures pour se souvenir et puis anticiper. Voilà. Mais la Fédération française de football aujourd'hui est passée à côté d'une superbe occasion. Et je le répète, je suis pas en colère, je suis très triste.
Duga, quel est ton avis là-dessus, le fait de jouer un 13 novembre?
Oh non, mais je partage. Non, non, mais ça aurait dû être anticipé. Bien évidemment, jouer aujourd'hui, c'est pas bien. C'est pas ce qu'il aurait fallu faire. Bien évidemment, mais tu sais, c'était une occasion d'expliquer une nouvelle fois pour les jeunes ce qui s'est passé, pourquoi ce jour est un jour de deuil. Voilà, j'écoutais aujourd'hui un reportage sur je sais plus quelle chaîne c'était, et où on posait la question à un certain nombre de jeunes, des collégiens et des lycéens, et on leur posait la question: à quoi correspondait le 11 novembre? Que c'était? Qu'est-ce qu'on fêtait le 11 novembre? Eh ben, écoute, il y a 20 gamins qui ont été interrogés, il y en a 19 qui n'ont pas su quoi répondre. Et aujourd'hui, malheureusement, tu vis dans un monde où on a tendance à balayer tout comme ça d'un revers de main. Voilà. Et moi, l'autre chose que j'ai envie de dire par rapport à ça, une nouvelle fois, c'est qu'on pense jamais, jamais, jamais aux victimes. On pense aux coupables. Voilà. Est-ce qu'ils sont bien en prison? Est-ce qu'ils ont le bon ordinateur? Est-ce qu'ils mangent bien? Est-ce qu'ils sont bien traités? Est-ce que si? Est-ce que là? Mais jamais, 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 jamais on pense aux victimes qui sont toujours en train de souffrir et qui souffrent au quotidien. Les familles des victimes, bien évidemment, également. Donc voilà, je trouve que on aurait dû avoir le peuple doit avoir avec la volonté de solidarité, de penser à ces gens-là qui ont souffert. C'est pas un crime de droit commun qui a eu lieu, c'est du terrorisme. Ce qui s'est passé, c'est gravissime.
En sachant que moi je sais très bien, je me rappelle très bien, j'étais dans les studios de RMC le jour où on a entendu le soir les deux premières détonations, et c'était autour d'un stade de football puisqu'il y avait un match de l'équipe de France.
Ben moi j'étais au stade de France ce soir-là, je commentais déjà pour RMC.
T'étais d'accord avec ça, toi, on aurait pas dû jouer le 13.
Mais non, mais c'était une formidable occasion, comme l'a dit Jean-Michel et Duga aussi, de montrer en effet toute la solidarité qu'on peut avoir. Mais le problème, c'est que le football serait ressorti. C'est même pas être grandi, c'est juste que on a une place très forte dans notre société aujourd'hui, et que la logique, ça aurait été ça. En plus, malheureusement un destin ce soir-là, c'est que ça s'est passé, la première détonation se sont passées au Stade de France. Exactement. Pendant un match de l'équipe de France. Mais bon, après, les gens qui nous dirigent aujourd'hui, bah ils y ont pas pensé. Peut-être qu'ils sont occupés à d'autres choses bien plus importantes.
Ce que j'espère, c'est que il va y avoir quand même une commémoration pendant ce match. Il va y avoir un moment, parce que c'est quand même pas anodin non plus aussi. C'est contre l'Ukraine, un pays qui est quand même en guerre. Et je trouve que cette occasion gâchée d'avoir décalé ce match-là, j'espère que pour ce match-là, justement, il va y avoir quelque chose d'assez symbolique. Parce que ça soit Duga, Jean-Michel, Jérôme, on est tous unanimes. C'est que tout à l'heure, on parlait de ne pas regarder aujourd'hui avec l'œil du passé, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut s'inspirer du passé en termes de valeurs. Et l'équipe de France, avec la position qu'elle a au niveau médiatique, au niveau émotionnel, je pense qu'elle se targuerait de justement faire quelque chose de beau.
Merci.
Bon, Jean-Michel,
merci d'être venu dans Retour à la Flamme. Voilà. Tu seras pas payé pour cette fois, hein, Jean-Michel. Hein, on te retrouve.
Non, mais ça va. J'ai gagné au quiz hier. et c'est ainsi que j'ai passé une excellente soirée. Ouais, ma petit Jérôme.
Merci, voilà, Jean-Michel.
Voilà l'émotion de Jean-Michel Larquet.
Dans un instant, la suite des meilleurs moments de Rotten sans flamme avec ce débat complètement fou. Mbappé à Dubaï, en plein rassemblement de l'équipe de France. Trouvez-vous ça choquant? Et ben voilà, on était avec Jean-Michel Larquet et Jean-Pierre Papin. On est là jusqu'à 20h, ne bougez pas.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme. Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.